Nous sommes de retour de la pause avec Pascal Bonbonnet et Denis Guy. Et Denis allait justement nous commencer à nous parler de la pluie et du beau temps. Et je ne sais pas si tu voulais nous faire une petite danse autour du feu ou...
Je pense qu'il y a des méthodes qui sont modernes aujourd'hui.
Oui, oui. Mais c'est ça, conte-nous ça, bon, parce que moi, je suis très curieuse parce que c'est un sujet que je connais, mais ce n'est pas un sujet que je connais vraiment approfondi. Là. J'en ai entendu parler, mais pas beaucoup. Fait okay. que ça va pouvoir...
Bien, je comprends qu'on n'entend pas beaucoup parler parce que ça s'est tenu vraiment secret dès le départ. Okay. Moi, j'ai été mis au courant parce que mon beau-père m'avait expliqué comment ça fonctionnait parce qu'il faisait partie. Lui, il était un garde forestier. Puis la forêt... eux doivent la protéger, ils sont là pour voir au feu, ils sont là pour voir s'il y a des gens qui y sont puis qui font du braconnage ou qui font des dommages ou causent des dommages à la forêt, entre autres faire des feux de forêt ou des choses comme ça. Mais il y a aussi de savoir si le temps est trop sec ou si on doit émettre des notes pour dire... arrêtez, faites pas de feu ou quoi que ce soit, mais aussi pour permettre à faire de la pluie artificielle. Mm-hmm. À l'époque, la façon que ça fonctionnait, ben, je vais vous donner un petit peu l'historique, parce que ça, c'était quelque chose de réel, qu'est-ce que c'est que lui faisait et tout, hein, mais l'historique de ça, c'est que la pluie artificielle ou l'ensemencement des nuages, c'est une technique qui a été élaborée et appliquée pour la première fois en 1946. Hein? Mm-hmm. Ça fait déjà un bon moment, là.
On serait temps qu'on soit au courant, là.
C'est ça. Ça avait commencé aux États-Unis. Ça, eux, ils faisaient ça pour lutter contre la sécheresse qui sévissait dans la région de New York. Ensuite, ça s'est répandu pour lutter contre le manque d'eau un petit peu partout dans le monde. Ça ne s'est pas fait seulement qu'aux États-Unis. Ça s'est fait un peu ailleurs aussi. Et beaucoup de pays commencent à recourir à cette technologie-là pour lutter contre la sécheresse. Fait que depuis les années 1950, l'ensemencement des nuages est aussi mis à profit pour lutter contre la grêle. Notamment, ce qu'il faisait à cette époque-là, c'est qu'il envoyait comme des fusées dans les nuages. Il faisait éclater ces fusées-là dans les nuages. Ça ébranlait, si on peut dire, la formation de la grêle. Puis, comme ça, ils pouvaient mieux contrôler la grêle. Puis, ils procédaient aussi en ajoutant des particules de d'iodure d'argent au noyau glaçogène, qui, là, c'est des termes un petit peu plus techniques, là, mais déjà présents dans l'air. On développe la glaciation des gouttelettes surfondues dans les orages et, en effet, la compétition, la croissance des grêlons et les dommages par la grêle diminuent. Donc, l'Association nationale d'études et de lutte contre le fléau atmosphérique, ANELFA, a été créée en France en 1951. Donc, ça ne fait pas d'hier. Mm-hmm. On parle bien de pratiques qui étaient déjà enseignées dans les universités. La technique est aussi pratiquée en Australie depuis plus de 50 ans et dans le sud de l'Italie, en Sicile et en Sardaigne, au Brésil et au Canada. Et présentement, au Canada, c'est l'Alberta qui a le centre de ce savoir-là là, pour... faire de la pluie, crever les nuages, puis avant que les grêles tombent sur des récoltes et tout ça. En 2004, l'Organisation météorologique mondiale recensait plus de 100 projets de modification artificielle du temps dans le monde entier, mis en œuvre par des dizaines de pays, en particulier dans des régions arides et semi-arides. Le plus grand projet actuel est mené en Chine. Aujourd'hui, cependant, rien ne permet de prouver que les méthodes actuelles d'ensemencement des nuages permettent d'augmenter les précipitations. Ils disent ça, mais c'est... Ils disent ça dans Wikipédia, mais en fin de compte, on le sait très bien qu'ils sont rendus plus loin. Mm-hmm. Parce qu'à l'époque qu'on faisait ça à partir du sol, le nitrate d'argent était utilisé justement pour faire crever les nuages, qu'ils disaient, là. Mon beau-père était en relation avec Weather Engineering à Montréal. Cette compagnie-là a changé de nom par la suite, qui est devenue Je pense que je l'ai dans des notes. J'en parlerai un petit peu plus tard. Okay. Ensuite, nous, ici au Canada, l'Alberta AIL Project est un des nombreux programmes de recherche pour étudier la physique des nuages et la dynamique de la production de la grêle afin de concevoir et de tester des moyens de suppression de la grêle.
OK, puis c'est un produit chimique, en vrai?
Oui, mais principalement du nitrate d'argent, qu'il disait, mais il y a aussi du soufre, il y a toutes sortes de choses qui ont développé aussi avec le temps. Alors, au cours des années 60, Irving Pickrick et Associates mirent sur pied une opération d'ensemencement de nuages réussie dans la région de Calgary, en Alberta. Celui-ci utilisait à la fois des tirs depuis le sol et en avion, avec de l'iodure d'argent dans l'atmosphère pour tenter de réduire les menaces de dommages causés par la grêle. Ralph Langerman, Lynn Garrison et Stan McLeod, tous ex-membres de l'escadron 403 de l'aviation royale canadienne et qui ont fréquenté l'Université de l'Alberta, ont passé leur été à ce travail-là. L'Alberta Hail Suppression Project continue de verser 3 millions de dollars canadiens par an aux compagnies d'assurance pour réduire les dommages causés par la grêle dans le sud de l'Alberta, parce que c'est là qu'ils fabriquent la grêle, ils étudient ce phénomène-là. Aux États-Unis, au cours de l'été 1948, voyez-vous, là, ça ne fait pas d'hier.
Non, c'est ça.
Le maire de la ville d'Alexandria, Louisiane, en Louisiane, une ville habituellement bien arrosée, autorisa le lâcher de glace sèche dans les nuages à partir de l'aéroport municipal pendant une période de sécheresse. Il a résulté 22 mm de pluie. C'est pas énorme, mais c'était fait à partir de l'humidité qu'il y avait dans l'air. De nombreuses expériences et programmes ont suivi, et depuis, en 2011, le North American Weather Modification Council regroupe 11 États de l'Ouest américain et la province canadienne de l'Alberta qui ont des programmes opérationnels de modification des conditions météorologiques pour la production de pluie ou de neige et la suppression de la grêle. Mm-hmm. Fait que ça, c'est seulement ici en Amérique, tout près de nous autres. Mais ça se fait aussi en Asie, ça se fait en Afrique, ça se fait un peu partout.
Puis des fois, ça peut-tu se faire, genre, penses-tu que ça peut se faire, genre, pour les grosses tornades qu'on voit ou les ouragans, des fois? Parce que, tu sais, j'ai déjà vu, à un moment donné, ils disaient, oh, l'ouragan va passer de là, c'est sûr. Puis finalement, oups, ça a dévié comme par magie. C'est eux autres qui ont comme...
Ben aujourd'hui, ça a rendu pas mal plus loin que 1940.
Oui.
Hein, on parle de quelque chose de 1940, mais on va revenir à ça un petit peu plus tard, parce que là, je vais aussi parler de ce qu'on a fait ici, là, si les gens pensent que c'est de la foutaise, tout ça, là. Je vais juste vous lire un petit événement qui s'est passé dans le passé au Québec, tout près de nous autres, hein? L'ensemencement de la pluie. On a parlé de ça à l'Assemblée nationale du Québec. Et vous pouvez retrouver dans la 27e législature, la 4e session, le 21 janvier 1965 et le 6 août 1965, un petit résumé que je vais vous lire là, sur ça. Puis vous pouvez retrouver ça. Je vais vous laisser des liens de toute façon sur au www.conscienceplus.com. Cette émission-là, je vais vous donner les détails où on peut retrouver ces choses-là. C'est ouvert au public. L'Assemblée nationale du Québec, c'est ouvert au public. À l'époque, il y avait René Lévesque qui était là, puis il y avait M. Johnson. Il était, je présume, que le premier ministre de Richesse naturelle va venir à l'engagement qu'il a pris hier. Ça, c'est lui qui dit... M. Johnson demande à M. René Lévesque de... parler sur ce qui s'est passé sur cette question-là. Alors, M. Johnson, demande à M. Lévesque de parler sur ce qui avait été déposé à la Chambre. Et M. Lévesque répond, « La déclaration que j'avais annoncée hier, je vais la déposer, si la Chambre me le permet, en deux copies avec les annexes. Mais je vais me contenter d'en lire les points essentiels. Ça devrait prendre 7 ou 8 minutes. » Ça ne sera pas nous, là. Je ne vous lirai pas tout ça. J'ai fait un petit résumé des choses importantes. La question de la pluie artificielle continue de préoccuper une bonne partie de la population québécoise, bien qu'il n'y ait eu aucun ensemencement de nuages depuis le 17 août 1964. Dans les régions de la Côte-Nord et du Lac-Saint-Jean depuis le 15 mai dernier, dans aucune région de la province, pour autant que je sache. Pour autant que je sache, parce que, en tout cas, c'était pas tout à fait sous le contrôle du gouvernement à cette époque-là. À mesure que le développement des connaissances scientifiques qui sont à la base de la météorologie, on poursuit des recherches en vue d'arriver à un meilleur contrôle du temps. Puis il faut se rappeler, avant que je continue plus loin, que déjà dans les débuts des années... fin des années 50, début des années 60, le président Kennedy disait que le contrôle du temps était une recherche importante parce que ceux qui vont contrôler le temps vont contrôler le monde aussi.
Okay.
Et puis, ce qu'il se passe aujourd'hui, c'est un petit peu ça. C'est qu'ils ont mis tellement ils ont tellement mis de recherche là-dedans qu'aujourd'hui, ils font des choses qu'on ne s'attend pas à ce qu'ils fassent, mais oui, ils peuvent, comme tu disais tantôt, provoquer des tremblements de terre, des raz de marée, des pluies torrentielles, des inondations. Ils ont un contrôle pratiquement du temps, là, de la température, c'est-à-dire qu'il fasse plus chaud, qu'il fasse plus froid. Ils vont faire neiger dans des régions qu'ils n'ont jamais connu la neige, ou très peu. Ils vont faire de la pluie, ils vont diminuer les températures, ils vont augmenter. En tout cas, écoute, ils sont rendus très loin. Juste pour dire, il y a eu une rencontre Gorbatchev et Reagan à Reykjavik. Je ne me répète plus exactement dans les années 80, du moins, là, mais je sais qu'il y avait une rencontre qui se faisait là, en Islande, là, pour justement s'entendre sur l'arrêt d'utilisation des armes dites naturelles, tremblements de terre, raz de marée, etc. Donc, déjà, à cette époque-là, il entrevoyait les possibilités de faire ça, ou il le faisait. Juste pour faire une petite parenthèse encore, avant d'aller plus loin dans la lecture de ce que je faisais pour l'Assemblée nationale du Québec, il y a eu un tremblement de terre énorme en Arménie, et ça avait été plus élevé que l'échelle maximum qui s'attendait. C'était plus que 9 à l'échelle Richter qu'il y a eu là-bas. Puis ça, c'est logarithmique. Donc, quand on passe de 8 à 9, là, déjà, on a multiplié par plus de 10 là, la force d'un tremblement de terre. Il restait presque plus rien. Puis presque immédiatement, l'armée russe est rentrée, puis est allée aider les gens en Arménie, puis tout ça. C'était surprenant la vitesse à laquelle ils ont pu venir en aide à l'Arménie. Pour savoir aujourd'hui que l'Arménie était près d'une guerre civile, puis là, ça commençait à être imminent, qu'il fallait qu'il y ait quelque chose qui se passe pour que tout ça change. Alors, dans le Science et Vie, et oui, dans le Science et Vie, il y a un colonel ou un général de l'armée russe qui a expliqué que c'était eux qui avaient causé le tremblement de terre.
OK, ouais.
Ouais. Le principe avait été de faire une explosion de plusieurs bombes qui était en formation de, comment je pourrais dire, une formation...
entonnoir.
Pas entonnoir, mais comme une coupole.
OK.
Pour concentrer, avec un foyer en Arménie, de manière à pouvoir provoquer un tremblement de terre à cet endroit-là. Fait que c'est plusieurs bombes qui ont sauté en même temps, puis le point focal était l'Arménie. Fait que, écoute, c'était une dévastation. Puis les Arméniens, ça a causé plusieurs morts, blessés et tout le kit, là, sans compter la destruction de l'Arménie. Là.
Mm-hmm.
Ça fait que lui, il avait raconté comment est-ce qu'il avait fait ça, comment est-ce qu'il avait provoqué ça dans cette revue-là de Science et Vie. J'ai gardé l'article en passant. Fait que si je suis capable, je vais le mettre en annexe sur le site de Conscience Plus. Ouais. Alors, ils sont rendus loin, là.
Ben oui.
Ils
se prennent pour dame nature, là, un petit
ouais,
peu.
Ben ils jouent à l'apprenti sorcier, ouais. Pas à peu près. Donc, fait que revenir, on revient à notre monsieur l'évêque. À mesure que, bon, je vais reprendre un peu, à mesure que se développent les connaissances scientifiques qui sont à la base de la météorologie, on poursuit des recherches en vue d'en arriver à de meilleurs contrôles du temps. Parmi les recherches les plus connues du contrôle du temps, il y a la méthode d'ensemencement des nuages afin d'obtenir une précipitation accrue. On peut se servir de diverses substances chimiques. Il y a là-dessus des discussions. Et aussi, pour l'ensemencement des nuages, on peut ensemencer soit par avion, soit à partir de générateurs situés au sol. Dans le cas qui nous préoccupe, il s'agit d'ensemencement des nuages à partir des générateurs terrestres. Pourquoi qu'il parle de ça, c'est qu'à un moment donné, on va le voir un petit peu plus loin, qu'il y a eu des protestations qui se sont faites grâce à des dames qui se sont levées, ils appelaient ça opération parapluie. Là. Il y a un été au lac Saint-Jean, il y avait mouillé, mais tout l'été.
Hey boy.
Ouais. Il n'y avait plus tout l'été. Écoute, la morale des gens, tu sais que t'es pris avec un hiver. L'hiver est un petit peu plus long là-bas qu'ici à Montréal. Là. Donc, c'est quelque chose qui... L'été, là, que t'es content, t'as hâte d'avoir un peu de soleil, peu de chaleur, tu sais. Mais là, si tu peux même pas profiter de l'extérieur, ça devient dur sur le moral. C'est ça. Bien, au point de vue juridique, il n'existe à notre connaissance aucune législation qui permette ou qui défende l'ensemencement des nuages, ni dans le Québec, ni ailleurs au Canada. Depuis une dizaine d'années, je répète, depuis une dizaine d'années, c'est pas moi qui dis, je répète, c'est le ministre de l'époque, M. Lévesque, je répète, depuis une dizaine d'années, divers organismes qui se préoccupent de la conservation des richesses naturelles, soit pour la protection des forêts, soit pour augmenter le contenu des réservoirs d'emmagasinement aux fins de production d'énergie électrique, se sont intéressés à ces techniques. Donc, Hydro-Québec, puis le ministère des Terres et Forêts, pour augmenter l'humidité, pour éviter des feux de forêt et tout, là, hein? Donc, ici, ils nous disent, ces toutes dernières années, depuis 4 ans ou à peu près, seules 3 régions du Québec ont ainsi servi de zone cible, donc depuis le début des années 60. Ce sont l'Outaouais supérieur, où un programme conjoint a été mené par Hydro-Québec et Hydro-Ontario, les vallées de la Gatineau et de la Lièvre, où le commanditaire était la compagnie d'électricité Gatineau et la compagnie McLaren Québec Power, et la zone de la Côte-Nord, où le commanditaire était l'Association de la protection des forêts laurentiennes. Fait que ça, c'était 3 endroits connus de cette expérience-là qui ont mené à cette époque-là. Ça, c'était le Québec, mais le Canada aussi. Le Québec investissait à peine moins d'1 million par année pour de l'expérience. Mais le Canada, il faisait aussi ses expériences. Eux autres, c'était 4-5 millions.
On se demande pourquoi que la planète est en train de virer de tour, tu sais.
Ben ouais. Mais comment ça se fait aussi qu'il y avait des pluies acides? Hein? On envoie dans l'air du nitrate d'argent, du soufre, toutes sortes de produits chimiques pour
voir qu'est-ce que ça. On se demande pas qu'il y a plein de cancers, tu sais. Ouais.
On commence-tu à comprendre, là? Fait qu'il y a aussi on modifie le temps, mais aussi on modifie notre environnement. Là.
Ouais, c'est ça.
Ça redescend tout ça à un moment donné. Mm-hmm. On le respire. Mm. Ça voile notre ciel. On a moins de soleil. Mm. Ça
pollue, changer la température
ça
aussi.
Pollue notre eau. Fait que il y a des gens qui sont contre ça, là. Puis il y a des raisons pourquoi ils sont contre ça, là.
Mais oui, on n'est pas supposé jouer avec la nature.
On n'a pas fini d'en entendre parler, là.
Ouais.
Quand on parle de chemtrails aujourd'hui, c'est pas pour rien. Puis là, ben les gens, c'est quoi ça? Mais oui, mais regarde, on est à zone insolite, là, on va en parler un petit peu. Puis on va vous mettre les points saisis, les barres CT, t'sais. Ça fait que... Tout ça, là, ça, déjà à cette époque-là, on parle des années 1960, là, c'était déjà là. Fait que à l'époque, toutes ces opérations-là, c'était avec une compagnie privée qui s'appelait Weather Engineering. Ça, c'est ce que mon beau-père me parlait, que lui, il était en contact. Et ils ont, à l'époque, en 1964 ou 65, ils ont changé pour le nom francophone qui est Génie Météo Inc. Mmh. Et aujourd'hui, j'ai cherché, parce que là, j'ai dit, ça m'intéresse de voir si ça existe encore. Je ne le retrouve pas. Mais probablement que c'est dû au fait que c'est sous la couverture de l'armée canadienne ou du service canadien.
Là, peut-être qu'ils vont tellement trop loin qu'ils cachent un peu plus. Là,
ben, je ne sais pas s'ils cachent ça. Tu ne peux pas vraiment cacher ça quand on en parle à l'Assemblée nationale. Là,
non, c'est sûr, mais je veux dire, là, on ne sait pas, on sait pas qu'est-ce qui se passe en ce moment, qu'est-ce qu'il y a... On n'en parle plus. Là,
ben, si ça se passait à cette époque, imagine aujourd'hui.
Ben, c'est ça, en copie.
Tu sais, à un moment donné, quand que les gens chialaient sur les Américains, ah ben là, les pluies acides, là, c'est quoi qui se passe? Ils font de l'électricité avec du charbon, puis ça cause des pluies acides, puis nos lacs s'acidifient, puis on voit les changements dans la nature, dans nos forêts, puis on voit les changements dans l'eau, puis tout le kit. Puis là, à un moment donné, ils mettaient toujours ça sur la faute des Américains. Puis j'ai vu un article à un moment donné qui disait « Je pense que ça serait le temps que vous cessez de nous viser dans tout ça. Mm-hmm. Est-ce que vous voulez vraiment qu'on vous dise qu'est-ce qui se passe? » Parce que là, s'ils révélaient aux Québécois ou aux Canadiens que justement, ils faisaient de la pluie artificielle puis qu'ils utilisaient des produits qui acidifient les sols, qui acidifient les lacs. On voit aujourd'hui l'Australie qui perd ses coraux.
Il n'y a plus grand-chose de bio, finalement, dans ce qu'on mange quand on fait ça.
Là, si tu sais que dans les chemtrails qui nous envoient qu'il y a de l'aluminium, qu'il y a du barium, qu'il y a du... Hey, écoute, à un moment donné, le monde va dire « Hey, là, ça va commencer à suffire, là. » Ils font de leur expérience pour modifier le temps, pour essayer de lutter contre l'effet de réchauffement. L'effet de réchauffement, on est constamment dans des transformations du temps. C'est pas dû à notre époque seulement. Là. Ça a toujours été les changements climatiques. Il y avait de la glace là, qui était jusqu'à 3 km là, dans le coin de Montréal. Là,
Il y a des océans, pas des océans, mais il y a des endroits qui ont été complètement tout envahis par l'eau. Là, fait que ça a toujours été comme ça. La Terre, elle se débrouille tout seul. Elle n'a pas besoin de nous autres pour changer la température. Là.
On est sujet aussi au rayonnement solaire.
Ouais, c'est ça.
Donc, le soleil augmente son activité. Oui, on peut essayer de stopper, mais là, je vous disais que là, ils parlent de faire des grands miroirs pour refléter la lumière. On va en avoir moins au sol. Mm. Puis, mais des grands miroirs, présentement, avec tous les satellites là, qui se promènent alentour de la Terre, là, les astronomes commencent à lever le flag et dire « Hey, c'est assez, là, les satellites, ça commence à nuire à nos travaux là, quand on veut faire des expériences pour le... » C'est bien beau d'envoyer des télescopes dans l'espace, mais de la Terre, on peut faire des observations. Puis là, ces observations-là deviennent de moins en moins possibles d'avoir une qualité quand tu vois passer une traînée là, d'un satellite qui passe.
Ben oui, j'en vois plein. Moi, quand je regarde la nuit, là, quand je regarde les étoiles, j'en vois plein de satellites qui se promènent. Là, t'sais. C'est pas des ovnis, là, c'est des satellites. Fait que, t'sais, y en a beaucoup, beaucoup. Là, t'sais.
Fait que là, on parle de faire des expériences. Là, je ne vous lirai pas tout ça. Là, vous allez être capable de lire ça de vous-même. Il y en a Il y en a très long.
On pourrait quasiment faire une émission complète juste là-dessus.
Oui, et puis je vous mettrai des liens, là, vous irez les lire vous-même là, sur l'Assemblée nationale, parce que là, je regarde le temps passé, puis on aurait pu prendre 2 heures.
Un jour, peut-être sur Conscience Plus, on pourrait faire quelque chose.
Peut-être cet été, on pourrait faire quelque chose à part. Mais je vous dirais que arrêtez de rire de ceux qui vous parlent de plus artificiel, de chemtrails, puis de le kit. Là, tout ça, ça existe.
Moi, j'ai même été une année dehors, puis j'ai vu une grosse traînée. Puis tu m'en avais parlé. Fait que là, j'étais comme, c'est peut-être ça, peut-être qu'il y a un avion qui fait ça. Mais là, il y a eu une senteur bizarre dehors. Là. J'étais comme, mon Dieu, ça sentait comme le soufre. Ça se peut-tu? J'ai resté dehors pendant un certain temps. Là, je voyais que ça s'est en train de se défaire tranquillement, pas vite. Puis là, ça commençait à sentir le souffle. Je disais, je rentre chez nous. Puis, tu sais, c'est...
Mais là, voilà, là, ce que tu dis là, c'est exactement ça. Hein? On va continuer à en parler tantôt. Mm-hmm. On va faire place à des annonces et puis on revient là-dessus. Je pense que ça se doit.